Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Un prochain journal dans 20 minutes maintenant. Bienvenue pour une nouvelle session d'appel sur l'actualité. Nous allons prendre le temps de décrypter ensemble des faits d'actualité qui vous ont interpellé. Journalistes et experts vont vous répondre en direct. Si vous voulez poser des questions, 33 9 693 693 70 33 9 693 693 70 appel au pluriel .actu@rfi.fr. Vous pouvez également venir nous écrire sur les réseaux sociaux et par ces mêmes moyens vous nous contactez pour participer au débat que nous ouvrons dans une demi-heure maintenant. Débat ce matin sur la Libye. Les forces loyalistes tentent de reprendre Sirte, fief du groupe État islamique. Des forces officiellement aidées par des bombardements américains, mais officieusement aussi par des forces spéciales au sol. Information donnée il y a quelques heures par le Washington Post. Pensez-vous que cette reconquête de Sirte est une étape vers la stabilité en Libye? Que pensez-vous de cet appui des Américains, mais aussi des Français, des Britanniques? Venez en discuter. 33 9 693 693 70 sur les réseaux, notamment la page Facebook. Nous lirons quelques-uns de vos messages. Mais tout de suite, les réponses à vos questions. Comme promis, on va commencer avec Jocelyn, puisque nous n'avons pas eu le temps de traiter sa question hier. Bonjour Jocelyn.
Oui, bonjour Nicolas. Bonjour tous les auditeurs de RFI.
Merci d'avoir attendu. Alors, vous êtes à Canton, en Chine, on vous écoute.
Oui. Bon, il y a quelques jours de cela, nous avons appris que le premier ministre malaisien était impliqué dans le scandale de corruption, dans un scandale de corruption et de blanchiment d'argent. Pourquoi ce sont les autorités, ce que je ne comprends pas, c'est que ce sont les autorités américaines qui se sont saisies de cette histoire. Pourquoi ce sont eux qui se sont saisies de cette affaire? Et de quoi s'agit-il exactement?
Alors, on va tout de suite rejoindre Elsa Lafaille de Michaud qui va vous répondre. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste de la Malaisie. On va peut-être commencer par expliquer ce qui est reproché exactement au premier ministre Najib Razak, celui qu'on surnomme là-bas en Malaisie Najib.
Oui, alors le scandale de corruption donc en Malaisie, on l'appelle 1MDB. C'est le nom du fonds d'investissement malaisien créé par le premier ministre qui était à l'époque et qui est toujours ministre des Finances en 2009. Et qui avait pour fonction de faire des grands investissements stratégiques pour développer le pays dans différentes directions. Et en fait, ce fonds est apparu de moins en moins bien géré au fil des années, puisqu'il avait 12 milliards de dettes, 12 milliards de dollars de dettes, je ne sais pas, dans les années 2012, donc très peu de temps après sa création, et des enquêtes journalistiques faites en Malaisie, on creusait de ce côté-là depuis un petit moment.
On dit...
Et en fait, le département de la justice américain vient de donner le chiffre final de leurs investigations. Ça serait 3,5 milliards de dollars qui auront été détournés de 1MDB, donc un fonds d'investissement, donc qui a une espèce de caisse, une caisse, qui appartient à la nation malaisienne, aurait été détourné en direction du Premier ministre et surtout de très proches à son service.
On dit que c'est...
Donc c'est ça le scandale.
On dit que ce sont effectivement beaucoup de ses proches qui dirigent ce fonds d'investissement. Un fonds qui a investi un peu tous azimuts.
En tant que ministre de la Justice, en tant que ministre des Finances, il est à la tête de 1MDB. Mmh. Dans l'organigramme, c'est lui qui... C'est un fonds d'État. Donc c'est lui qui est un des plus importants donneurs d'ordre dans ce fonds. Donc c'est très très près de lui.
Un fonds d'État qui a priori a même investi à Hollywood, notamment pour un studio qui a produit, et c'est un peu ironique, le Loup de Wall Street.
Oui, c'est totalement ironique, exactement. Oui, alors je ne sais pas si c'est le fonds qui a produit ou c'est des très proches de lui, son beau-fils et Lojo, qui est donc une personnalité sulfureuse liée à 1MDB. Qui aurait, avec l'argent reçu de 1MDB, produit ce film.
C'est un film qui a fait beaucoup de bénéfices, mais a priori, la population de Malaisie n'en verra absolument pas la couleur de l'argent, pour rester dans la thématique hollywoodienne.
C'est ça, ça a été approprié de manière privée par quelques individus très très près du Premier ministre. Et ça a été retracé par des enquêtes qui ont été faites sur les comptes en banque des uns et des autres, et qui sont toujours passés par des sociétés dans les îles Seychelles notamment, avec des jeux de miroirs et de sociétés écrans très très bien menés, et qui étaient manifestement là pour ça exactement, pour brouiller les pistes. Sauf que les pistes ont réussi à être démêlées. Et à l'origine, c'est vraiment le travail du Sarawak Report, qui est un journal en ligne de Claire Ryu Castle Brown, une journaliste d'investigation qui est sur Bornéo. Et qui est une femme vraiment très courageuse, parce qu'elle a attaqué en fait le sommet du pouvoir malaisien, qui est un pouvoir très dur. Donc ça, c'est OneMDB. Donc c'est un scandale qui, quand il est apparu par le Sarawak Report, a été relayé dans la presse malaisienne, mais était à la fois vite étouffé, remonté à la surface, etc. Et c'est quand le Wall Street Journal, l'été dernier, fin juin, a fait un grand article là-dessus, que c'est vraiment, ça a éclaté sur la scène internationale. Et là, on a su que le FBI s'en saisissait.
Merci beaucoup. Donc, Elsa Lafaille de Michaud, je suis obligé de vous couper. On a beaucoup d'autres questions encore à régler. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes, spécialiste de la Malaisie. Merci à Jocelyn qui nous appelait de Canton pour cette question. On va rejoindre à présent Mamadi qui est à Conakry. Bonjour Mamadi.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue à vous, on écoute votre question, vos questions.
Alors, de nouveaux affrontements ont eu lieu ces derniers temps en Ukraine. Ma première question est la suivante. Assistons-nous à une escalade des violences dans le Donbass? La deuxième est, quelles sont les solutions envisagées? Et la troisième, où en sommes-nous avec les accords de Minsk signés en 2015, dont entre autres la cessation des hostilités, l'arrêt définitif des combats?
C'était ce week-end, 4 soldats ukrainiens tués, 4 autres blessés lors de nouveaux affrontements entre les rebelles pro-russes et les forces gouvernementales. L'Ukraine est en proie depuis 2 ans à un conflit qui oppose son armée à des séparatistes pro-russes qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus militairement par la Russie. Moscou a largement démenti plusieurs fois. Elena Gabrielan est journaliste au service russe de RFI. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va répondre à cette première question. Est-ce que ces combats de ce week-end sont le signe d'une escalade du conflit ukrainien? C'est vrai qu'on en parlait un peu moins ces dernières semaines.
Oui, en effet, il faut savoir que le conflit dans l'est de l'Ukraine ne s'est jamais arrêté véritablement et il change en intensité depuis 2 ans. Les affrontements ont lieu au quotidien et ils sont de plus en plus meurtriers, effectivement. Et hier, un soldat ukrainien est mort. 5 autres ont été blessés. Kiev rapporte également 10 de victimes côté séparatiste pro-russe. Les deux parties du conflit s'accusent mutuellement de violer ces accords de Minsk et faire l'usage de l'artillerie lourde qui est censée d'être retirée de la ligne de contact en vertu de ces mêmes protocoles. La tension a monté surtout après une tentative d'assassinat qui a visé la semaine dernière Igor Plotnitsky, le chef de la République autoproclamée de Lugansk, qui a accusé Kiev de l'attaque et les autorités ukrainiennes rejettent ces accusations. Il faut dire que l'été 2016 est particulièrement violent et parmi les victimes, il y a beaucoup, beaucoup de civils. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé 20 de morts et plus de 120 blessés en seulement 2 mois. Il s'agit vraiment le nombre de victimes le plus élevé depuis août 2015, dû principalement à des bombardements. Mais chaque jour, il faut savoir que 30 000 personnes franchissent la ligne de contact qui est entourée des champs de mines non identifiés. Du coup, leur explosion cause également des victimes. Et en 2 ans, leur nombre a augmenté jusqu'à 10 000 personnes.
Et pourtant, Mamadi, notre auditeur, le note, il y a des accords, les accords de Minsk, qui ont été signés en 2015. Et ils prévoyaient notamment un cessez-le-feu qui, donc, visiblement, n'est pas du tout respecté.
Absolument. Justement, pour avancer dans l'application de ces accords, il faut avant tout le cessez-le-feu. Et or, on voit bien que le calme ne revient toujours pas dans la région. Les diplomates occidentaux, donc il faut rappeler que cet accord a été signé avec médiation de Berlin et Paris. Et donc, les occidentaux ne paraissent pas très optimistes, d'autant plus qu'il y a plusieurs points de blocage. Kiev n'a toujours pas adopté la réforme constitutionnelle qui prévoit notamment un statut spécial pour le Donbass et la perspective des élections dans cette région séparatiste paraît encore lointaine. Et pour rappel, le texte des accords prévoit également la restitution du contrôle de la frontière russo-ukrainienne à Kiev, car aujourd'hui, cette frontière se trouve sous les mains des séparatistes qui s'approvisionnent justement en armes depuis la Russie. Les accords stipulent en outre le retrait des groupes armés illégaux, mais là encore, vous avez un problème d'interprétation de calendrier. Les négociateurs ont laissé un certain flou dans le texte quant à la mise en œuvre de ces différentes étapes. Selon Kiev, ces élections conformes aux standards de l'OSCE, comme c'est indiqué dans les accords, ne peuvent pas se dérouler dans le Donbass tant qu'il est sous le contrôle des groupes armés.
Donc on n'a pas fini de parler de ce dossier ukrainien. Merci beaucoup Elena Gabrielian d'être venue nous rejoindre du service russe de RFI. Et merci à Mamadi pour cette question. Il nous appelait de Conakry. Francis est en ligne de Pointe-Noire en RDC. Bonjour Francis.
Bonjour Nicolas et à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. C'est en République du Congo, Brazzaville donc. Je suis à Pointe-Noire.
Pardon, excusez-moi. Alors déjà, je vais rectifier ma géographie. Vous avez des questions sur le processus de paix en Colombie. A priori, je connais un peu mieux. Allez-y.
Oui Nicolas. L'ONU va envoyer des observateurs en Colombie pour surveiller le cessez-le-feu entre l'armée et la guérilla des FARC. Ceci consécutif à l'accord de paix signé le 23 juin dernier à La Havane, à Cuba. Alors, quelle sera exactement la mission de ces observateurs? Comment compte-t-il faire respecter ce cessez-le-feu? Ensuite, est-ce que la présence des observateurs onusiens en Colombie peut-elle dissuader d'autres groupes comme l'armée de libération nationale, par exemple? Enfin, comment la situation des nombreuses combattantes des FARC a-t-elle été traitée dans les négociations?
Alors c'est Daniel...
Voilà, Nicolas, les préoccupations que j'avais et merci d'avoir permis de me les exprimer toutes.
On va essayer d'y répondre avec Daniel Pécaud. Bonjour.
Pour l'instant, c'est un accord de cessez-le-feu bilatéral qui a été signé. L'accord final n'a pas été encore signé. Et la mission des 500 observateurs de l'ONU consiste à veiller sur les opérations de démobilisation et de désarmement à partir du moment où ces opérations commenceront. Actuellement, il est prévu 30 zones dans lesquelles aura lieu cette démobilisation. Et donc la mission des observateurs sera d'assurer les rapports avec les autorités locales dans ces régions dans lesquelles la présence de l'État jusque-là n'est pas assurée, sont des régions rurales très éloignées. Et d'autre part, la mission des observateurs sera d'assurer la sécurité des démobilisés face aux autres groupes armés, de veiller au strict respect par les forces armées des accords qui auront été signés et de permettre la participation politique locale des guérilleros démobilisés.
Daniel...
Une fois cela effectué, interviendra pendant 6 mois l'opération de remise des armes. L'ONU étant chargée de centraliser cette remise des armes.
Daniel Pécaud, vous qui êtes directeur de l'école des hautes études en sciences sociales, Francis s'interroge notamment sur la situation des combattantes à juste titre, puisque 40% des membres des FARC sont des femmes et que l'accord de paix, les négociations, ont tenu compte de cette situation spécifique, si je ne m'abuse.
À ma connaissance, ça n'a pas été discuté à La Havane. Le problème, effectivement... et celui en général des démobilisés hommes et femmes, on sait que les FARC réclament pour la démobilisation d'abord une amnistie générale pour ceux qui ne seraient pas susceptibles d'être accusés de crimes contre l'humanité. Une fois cela fait, tous les problèmes seront posés, c'est-à-dire d'éducation dans la mesure où hommes et femmes ont en général un niveau d'éducation extrêmement faible, et d'autre part, le pari du gouvernement est non pas de leur procurer aux combattants un taxi ou je ne sais quoi, ou un salaire, mais de leur permettre d'accéder à l'emploi et de participer à la reconstruction du pays. Mais je tiens à souligner que pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes non résolus encore. Premièrement, tout passe par un vote, un référendum, et qui ne va pas de soi pour...
Les Colombiens, effectivement, vont devoir se prononcer. Je suis obligé de vous couper, Daniel Pecaud, parce que ce serait encore l'objet de d'autres questions d'auditeurs. Et on a encore une dernière question à laquelle répondre. Je vous remercie. Vous êtes directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous partons tout de suite pour Las Vegas, aux États-Unis, où nous attend Destin. Bonjour, Destin.
Bonjour, Nicolas. Bonjour à toute l'équipe technique et bonjour aux auditeurs de la radio mondiale, spécialement ceux de Cotonou.
Bienvenue. Vous avez des questions sur le Canada?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Le Canada a annoncé le début d'une enquête sur la tuerie et la disparition des femmes autochtones. Alors, comment expliquer le silence des autorités et surtout de la communauté internationale sur ce sujet pendant si longtemps? Alors, ma deuxième préoccupation, quelles sont les chances pour cette enquête d'aboutir et quelle pourrait être la suite à donner à ces conclusions? Merci beaucoup, Nicolas.
C'est un dossier suivi au service international de RFI par Sabrine Amir. Bonjour.
Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous.
Des centaines de disparitions, comme le dit notre auditeur. Et pourtant, comment expliquer le silence des autorités et de la communauté internationale?
Pour trois principales raisons. D'abord, pour l'ancien premier ministre du Canada, le conservateur Stephen Harper, en poste entre 2006 et 2015, les meurtres et les disparitions depuis 30 ans relevaient de la criminalité et non d'un phénomène sociologique. Donc, pour lui, les enquêtes policières suffisaient. Ensuite, la plupart de ces crimes étaient déjà résolus, c'est ce qu'il avait déclaré. Or, dans plusieurs dossiers de meurtre, les familles contestent toujours les conclusions de l'enquête et de nombreuses disparitions restent toujours un mystère. Et enfin, ce silence des autorités, c'est aussi en quelque sorte le reflet de l'histoire des Premières Nations du Canada. Depuis toujours, la classe politique canadienne se fait assez discrète au sujet des crimes commis contre les Autochtones parce que l'État a une part de responsabilité, notamment avec ce système d'assimilation des enfants qui étaient les pensionnats indiens religieux, qualifiés l'an dernier de génocide culturel par la Commission Vérité et Réconciliation. Alors, les plaies sont toujours vives aujourd'hui. C'est très récent, Nicolas. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996. Les réserves autochtones créées par une loi qui s'appelle la Loi sur les Indiens sont minées par la pauvreté, la toxicomanie, le chômage et la violence. Alors, pour expliquer ce silence, d'abord, c'est une question de politique intérieure. Certains parleront même d'indifférence. Les autorités autochtones parlent de racisme systémique qui mène à une impunité et à un manque de volonté des policiers à mener des enquêtes.
Quelle est l'ampleur de ce phénomène? On a parlé de centaines de disparitions, c'est bien ça, hein?
Entre 1980 et 2012, pendant plus de 30 ans, la police a recensé 1200 femmes disparues ou assassinées. C'est 3 à 4 fois plus que dans le reste de la population canadienne. Un chiffre qui serait même sous-estimé si on en croit l'Association des femmes autochtones du Canada. Ce ne sont pas 1200 femmes, mais bien 4000 femmes disparues ou assassinées. D'ailleurs, la police est accusée de ne pas enquêter avec la même rigueur quand il s'agit de femmes autochtones. La violence envers les femmes autochtones est un vrai phénomène, à un point tel que l'autoroute 16 en Colombie-Britannique est surnommée la Highway of Tears, l'autoroute des larmes, parce qu'elle est témoin de nombreux meurtres et enlèvements, comme d'ailleurs bien d'autres communautés autochtones au pays, témoins elles aussi de ces violences.
Est-ce que les choses, Sabrina, ont changé avec l'arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre Justin Trudeau? Il avait promis de lancer une enquête, c'était une promesse de campagne électorale.
Oui, et le premier ministre a tenu parole pour le gouvernement canadien libéral. Il n'est plus question de garder le silence. Justin Trudeau s'est même engagé à rétablir les liens avec les communautés autochtones. L'objectif de cette enquête est donc de déterminer les causes profondes des disparitions et des meurtres de ces femmes. Des consultations ont eu lieu pour définir les bases de cette enquête qui commencera dès le 1er septembre.
Il nous reste 30 secondes pour savoir si l'enquête a des chances d'aboutir.
C'est une commission d'enquête non contraignante, c'est-à-dire que les enquêteurs n'auront pas le pouvoir de déférer d'éventuels suspects devant la justice ou encore d'obliger les forces policières à rouvrir des enquêtes. Malgré tout, dans les communautés autochtones, c'est un grand soulagement. Après plusieurs années dans l'ombre, les femmes autochtones souhaitent maintenant se faire entendre.
Merci beaucoup, Sabrina Amir, et merci beaucoup à Destin qui nous appelait de Las Vegas aux États-Unis. Une petite pause, le journal, et on ouvre le débat sur la Libye. À tout de suite dans Appel sur l'actualité.
Et si le temps d'un été, 20 jeunes prenaient le contrôle des eaux? Et si le temps d'un été, 20 jeunes...